Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la fois, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Une enquête de la Croix sur les jeunes catholiques qui se rendent au JMJ montre une grande bienveillance de ces jeunes vis-à-vis de la messe en latin. Peut-on parler de la messe de toujours, expression employée pour désigner la messe dite de Saint-Pie V ? C'est la question que je pose à mon invité du jour, le père Gilles Drouin, directeur à l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Bonjour père.
Bonjour madame.
Pourquoi en France la question liturgique suscite-t-elle autant de débats passionnés ?
C'est vrai qu'elle suscite des débats et des débats passionnés. Et dans votre question, il y a en France, et je pense que c'est fondamental. Comme directeur de l'Institut supérieur de liturgie, je voyage pas mal en Europe et dans le monde. Et nos collègues liturgistes nous le font remarquer et nous disent « Mais en France, vous êtes focalisé par la question traditionnaliste. » Et c'est un fait. Alors, pourquoi en France ? D'ailleurs, il n'y a pas forcément uniquement la France, mais c'est vrai qu'on est un peu particulier. Il y a la France et les États-Unis où la question liturgique, de façon un peu différente, est très sensible. Et notamment la question liturgique dans sa version traditionnaliste. Parce qu'il y a d'autres pays, comme d'autres pays d'Afrique, où c'est plutôt lié à des questions d'inculturation, de rapport à la culture, etc. Mais là, la question traditionaliste est sensible. Il me semble, mais c'est une hypothèse, il me semble que c'est l'intérêt de comparer la France et les États-Unis, qu'on a deux pays qui sont très clivés sur le plan politique. On est deux pays passionnés de politique, avec de clivages forts. Et en France en particulier, depuis la Révolution française, eh bien, la question liturgique est devenue l'étendard de questions qui ne sont pas toujours des questions d'abord liturgiques. Ce sont des questions de rapport au monde et des questions, entre autres, politiques. C'est le catholicisme intransigeant qui fait partie du paysage catholique français, au moins depuis la Révolution. Je prends un exemple, l'exemple de Mgr Lefebvre, un des pères du traditionalisme. Il a voté la Constitution sur la liturgie, il a voté la réforme de la liturgie. Mais c'est immédiatement après que son opposition, elle portait sur d'autres questions, surtout le rapport au monde, la liberté religieuse, le dialogue interreligieux. Et finalement, la question liturgique est devenue un peu le point de ralliement, le point de cristallisation de questions qui n'étaient pas au départ d'abord liturgiques. Vous savez, la liturgie, l'histoire longue montre que la liturgie, elle a cette capacité, parce qu'elle touche les corps, elle touche les pratiques, elle touche le peuple, elle touche notre cœur, etc., de la manière, de devenir, c'est dangereux aussi par moments, l'étendard de questions qui ne sont pas d'abord liturgiques. Et je pense que ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour laquelle, dans notre pays, marqué par une fracture dans le rapport entre l'Église et la société après la Révolution française, et on comprend, cette question est si sensible.
Alors, si on revient du coup à la question liturgique en elle-même, comment les premiers chrétiens célébraient-ils l'Eucharistie ?
Alors, voilà. Alors, il y a des grands savants parmi mes prédécesseurs, mes glorieux prédécesseurs à l'Institut de liturgie, et qui ont. Il y a toute une histoire de la messe, une histoire passionnante. Finalement, cette histoire, elle essaye de montrer, de rendre compte comment, finalement, l'Église, dans des conditions culturelles, sociales, politiques, historiques très différentes, a essayé, a réussi, sous la motion du Saint-Esprit, à être fidèle à l'ordre de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas laissé grand-chose, Jésus. Il a laissé l'essentiel, il a laissé son corps. Il a donné tout, et sous une forme rituelle. Donc, la messe a changé, Elle n'a pas changé dans son essence profonde, mais dans la manière de célébrer. Alors, je ferai simplement deux points. C'est pas parce qu'on célébrait comme ça au IIe siècle que c'est... il faut se méfier de l'archéologisme. On n'est plus au IIe siècle, on n'est plus au XVIIe siècle. Mais je m'arrête au IIe siècle parce qu'on a un point extrêmement important avec un philosophe romain martyr, un saint Justin de Rome, qui décrit la messe telle qu'elle se célébrait à Rome, en grec, en 150 après Jésus-Christ. Et les éléments fondamentaux de la messe actuelle, mais de la messe de Saint-Pie V, de la messe actuelle, de la messe de toujours, justement, sont présents. Ça commence par une liturgie de la parole, c'est un rassemblement, une liturgie de la parole, une homélie, qui fait partie de la liturgie de la parole, mais on commente, une prière universelle, une procession des dons, la présentation des dons, et une grande action eucharistique qui débouche, donc le canon, qui débouche sur la communion. C'est assez impressionnant. Vous savez, quand vous lisez Saint-Justin de Rome, moi, ça m'émeut toujours, parce que tout est en place en 150 après Jésus-Christ. Alors évidemment, après ça a bougé. Par exemple, l'Église s'est mise à célébrer en latin parce qu'on célébrait en grec. Hein. Le christianisme est plutôt né dans la partie orientale du bassin méditerranéen. Assez rapidement, quand l'Église s'est inculturée dans le monde latin, elle a pris la langue du peuple, qui était le latin à l'époque. Hein. Mais la structure est demeurée la même. Et progressivement, eh bien, les rites se sont enrichis. Vous savez, ici, on est... Alors, nos auditeurs sont du monde entier, mais ici, on est à Paris, on est en France. Quand le christianisme est venu en France, on était dans un univers culturel, dans le monde gallo-franc, très différent du monde du bassin méditerranéen. Donc, la messe s'est inculturée, si j'ose dire. Il y a eu un processus d'inculturation. Hein. Et puis, ça a continué, l'adaptation s'est perpétuée.
Et alors, par la suite, parce que dans ces débats, il y a souvent la question du Concile de Trente qui arrive là, oui.
Alors, j'ai essayé de parler rapidement, évidemment, de l'adaptation aux cultures, aux conditions, etc., aux mentalités qui changent, en respectant toujours cette structure et le noyau, évidemment, l'ordre de Jésus. Hein. Je veux dire, c'est ça, le cœur du cœur. Hein. Mais c'est vrai qu'en Occident, notamment, eh bien, on a eu des querelles eucharistiques. On a eu des querelles eucharistiques, alors j'en donnerai deux pour faire simple, au Moyen-Âge, avec Béranger de Tours, hein, qui mettait en cause le réalisme de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et ça a été un traumatisme pour l'Occident, qui a été d'ailleurs repris par une partie du protestantisme, donc au XVIe siècle, hein, de la Réforme, avec deux points de rupture par rapport au catholicisme, la question de la présence réelle et la question du caractère sacrificiel de la messe. C'est un peu technique, mais vous voyez que ce sont deux questions sur lesquelles nos amis traditionalistes insistent beaucoup. Oui. Et c'est vrai que le Concile de Trente, qui était une réaction magnifique, hein, du catholicisme au protestantisme, avec une dimension doctrinale et une dimension pastorale, eh bien, a entraîné, il n'a pas édité un missel, mais l'édition du missel de Saint Pie V, et ce missel, qui est une réception un peu corrigée des grands missels du Moyen-Âge, hein, et surtout tout l'environnement, la pastorale qui l'a accompagné, ont insisté, eh bien, sur les deux points que les protestants remettaient en cause, c'est-à-dire la présence réelle, certains protestants, hein, la présence réelle, et le caractère sacrificiel, ça c'est pratiquement tous. De sorte que la théologie catholique autour de l'Eucharistie est devenue pratiquement exclusivement présence réelle et caractère sacrificiel, ce qui est évidemment fondamental, mais peut-être en oubliant un peu, eh bien, des points qui n'étaient pas remis en cause, le caractère mémoriel, hein, faites ceci en mémoire de moi, la mémoire du geste sauveur du Christ, que le Concile de Trente réaffirme d'ailleurs fortement, et puis surtout peut-être le caractère ecclésial, communionnel, hein, le grand, ce que dit Augustin, hein, devenez ce que vous recevez, hein, c'est-à-dire le fait que quand on reçoit le corps du Christ, eh bien, on est aussi reçu dans le grand corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et le mouvement liturgique du XXe siècle a voulu, et qui a été sanctionné au sens positif, mais accueilli par le Concile Vatican II, a probablement voulu, parce que le contexte de polémique anti-protestante avait, grâce à Dieu, cessé, hein, ou s'était atténué, eh bien rééquilibrer. Et si on réinsiste sur le caractère mémoriel et le caractère communionnel, ça ne veut pas dire, même si ça a pu être compris comme ça et peut-être parfois présenté comme ça, qu'on dévalorise la présence réelle et le caractère sacrificiel. Je crois que, vous voyez, et c'est vrai que le missel du Concile de Trente, sur ce plan-là, c'est vrai, et la pastorale du Concile de Trente, ne peut se comprendre que dans le contexte qui n'est plus notre contexte actuel. Et Dieu sait, je suis un peu un théologien tridentin, au sens que le Concile de Trente est un concile magnifique. Je suis aussi émerveillé par tout le travail, notamment liturgique, qui a suivi le Concile de Trente, mais qui a pu déséquilibrer parfois, à cause du contexte, hein, de notre théologie et notre pratique eucharistique.
À la suite de ça, finalement, qu'est-ce qu'on entend par tradition liturgique, diriez-vous ? Comment l'entendre dans la... Vous voyez, pour toutes ces personnes qui regrettent peut-être...
Moi, je crois qu'il faut l'entendre comme Saint Paul. Ouais. Alors, je veux dire, vous savez, la tradition... On dit souvent, il y a la tradition et les traditions. On a des traditions dans la liturgie, d'ailleurs. On a des traditions régionales. La liturgie, elle a été, pendant très longtemps, diocésaine, etc. Voilà, dans ma région d'origine, eh bien, on a une tradition pour une fête de la Sainte Vierge, on passe sous l'icône, etc. C'est l'image. Hein, Mais la tradition, au sens théologique, qui est un concept théologique. Vous savez, le catholicisme insiste, évidemment, comme nos amis protestants, sur les Écritures, mais insiste plus peut-être sur la tradition. Hein, il y a les Écritures et la tradition. La tradition, avant d'être un contenu, c'est l'acte de transmettre. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la part de la tradition qui vient du Seigneur Jésus, dit Paul dans la lettre aux Corinthiens. Et donc c'est ça, c'est l'acte de transmettre. Et en catholicisme, eh bien, l'authenticité de la tradition est garantie en quelque sorte par le magistère, en particulier le magistère romain, pas uniquement, il y a celui des évêques, mais le magistère romain. Donc, et ça, c'est notre trésor catholique. Alors, si j'étais un peu polémique, je ne le suis pas par nature, mais je me dirais que la messe traditionnelle, c'est la messe de Paul VI. Parce que c'est la messe qui a été promulguée par un acte solennel de tradition, c'est-à-dire un concile œcuménique sanctionné par le pape, sanctionné au sens encore positif, par le pape, et donc un acte solennel du magistère. Et c'est la manière dont l'Église nous dit l'authentique tradition de mettre en œuvre l'ordre de Jésus, faites ceci en mémoire de moi.
Certains aujourd'hui aimeraient trouver une sorte de troisième voie entre la messe en latin et la messe selon l'esprit de Paul VI, en fait, en l'adaptant finalement, en mettant des aménagements comme le père Nadler. Qu'en pensez-vous?
Alors, moi, je suis un peu, je suis par sensibilité, alors le mot n'est pas très beau, surtout, mais assez réticent. Vous savez, c'est comme s'il y avait une voie de droite et une voie de gauche, et on essaye de trouver une via media, une troisième voie. Je pense que l'approche n'est pas tout à fait juste sur le plan théologique, j'allais dire, trouver une espèce de voie moyenne. Je comprends le souci pastoral, etc. Il me semble que le pape donne une clé ou donne deux directions dans sa lettre Desiderio Desideravi, ça me semble important. Il y a la question de la formation. C'est pas une... Plutôt que de prendre un petit... quelques pratiques tridentines, quelques pratiques Paul VI, et puis mélanger et trouver une voie moyenne. Et ça, c'est peut-être une des limites de la réception ou du travail pastoral qu'on n'a pas fait après Vatican II, ou insuffisamment. Le Concile de Trente s'est traduit par un énorme travail d'accompagnement pastoral. Donc, on a cru que traduire la messe la rendrait transparente, si j'ose dire. Donc, le pape nous invite à faire une formation. Le diocèse de Paris, d'ailleurs, s'est engagé dans une grande opération de formation au sacrement. Et puis, le point, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est l'art de célébrer. L'art de célébrer, je crois. Et là, il faut entendre ce que disent nos amis traditionalistes. C'est-à-dire que, un exemple. Moi, j'ai été très marqué par le cardinal Lustiger, qui est authentiquement un homme de la tradition liturgique du Concile, via le père Bouillet. Ben, quand le cardinal Lustiger célébrait à Notre-Dame, c'était une liturgie de Vatican II, de Paul VI, mais qu'il mettait en œuvre avec une ampleur et qui donnait une force au rite, par sa présence, par sa gestuelle. C'est plus difficile de célébrer, aller face au peuple, selon Vatican II, que selon la messe tridentine. Donc là, je pense, formation et art de célébrer, il y a deux chantiers qui s'ouvrent devant nous.
Merci Père Gilles Drouin, et quant à moi, je vous remercie chers auditeurs d'être fidèles à 1000 questions à la fois.
Merci à vous Florence Châtel, 1000 questions à la fois, c'est tous les samedis à retrouver en podcast, radionotredame.com, rcf.fr. Restez à l'écoute, dans moins de 5 minutes, nous évoquerons l'exposition Les Racines de l'Équilibre. Dans quelques jours à Notre-Dame d'Espérance, c'est à Paris, dans le 11e arrondissement, tout près de Bastille. L'artiste Patricia Loué sera notre invitée culture. Nous sommes le samedi 1er mars, il est 7h15.